Fermer les yeux sur la précarité, la maladie, la déchéance, l'exclusion, c'est pratiquer une politique de l'autruche qui se retournera immanquablement contre ceux qui l'auront cautionnée. Noël Mamère, né le 25 décembre 1948 en Gironde, est un ancien journaliste, homme politique, français, partisan d'une écologie politique. Il a été membre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts. Jusqu'en 2013, il a été maire de Bègle de 1989 à 2017 et député de 1997 à 2017. Notre devise, tous ensemble pour la réussite, tous concernés par l'avenir de nos enfants, de nos ados.
Chers auditeurs, nous sommes le 2 mars 2023. Bienvenue sur Radio Valois-Mulsien dans l'émission Pédago Rando, animée par l'association Projet Action 60, en partenariat avec Agir ABCD et Énergie Jeune. Bonjour, charmant chroniqueur.
Bonjour.
Notre thème du jour, la précarité des étudiants. Pour cela, nous recevons au téléphone Charlotte Moisan, du Mouvement National des Lycéens, secrétaire générale et déléguée au féminisme. Également au téléphone Maëlle Herman, de la FAEP, Fédération des associations étudiantes Picarde. Il est porte-parole et vice-président aux affaires académiques. Et un mystérieux invité, Melvin, qui se présentera tout à l'heure.
Bonjour.
Donc, nous allons demander à Charlotte et à Maëlle de se présenter. Charlotte, peux-tu commencer ?
Oui, bien sûr. Bonjour, donc moi c'est Charlotte, je suis secrétaire générale du Mouvement National Lycéen. C'est donc un syndicat lycéen qui se bat pour les droits des lycéennes et des lycéens et qui s'intéresse aux problématiques qui sont liées au lycée, ce que peuvent subir les lycéens, comment on peut les aider, les soutenir et quelle société les lycéennes et les lycéens veulent porter et veulent voir paraître.
Alors oui, c'est vrai qu'il faut quand même signaler que dans les lycées, nous avons des BTS, hein, brevets techniques supérieurs. Donc effectivement, il y a des étudiants dans les lycées et on oublie souvent de le dire. Voilà. Merci Charlotte. On va passer à Maëlle. Maëlle, tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors essaye de parler fort parce que toi aussi, tu es sur mon portable. Parce que tu n'as pas pu venir, hein, oui, quand on n'a pas une voiture française, hein, c'est un peu embêtant, hein, Maëlle. Donc vas-y, on va essayer de voir si ça fonctionne.
Alors bonjour à toutes et à tous, moi j'appelle Maëlle Hermon, je suis étudiant en médecine à l'UFR de médecine d'Amiens. Je suis aussi porte-parole de la Fédération des associations étudiantes Picarde, donc la FAEP, qui représente tous les étudiants et étudiantes de Picardie, et effectivement les BTS également, puisqu'ils sont étudiants d'enseignement supérieur.
Voilà, bon, on a fait le tour.
Eh bien, Sylvie, tu peux nous présenter le thème du mois ?
Bien sûr. Alors, la précarité des étudiants est connue, même reconnue, hein, mais pourquoi reste-t-il un sujet très peu abordé ? Ce fléau entraîne un mal-être chez les étudiants qui échouent parfois au niveau de leurs études et surtout délaissent leur santé. Vivre au jour le jour pour certains, avoir un job le soir ou le week-end pour d'autres, se culpabiliser d'être à la charge de ses parents, quelles sont les réelles difficultés rencontrées par nos étudiants ? Et malgré les efforts des conseils généraux, des conseils régionaux, les nombreuses aides données aussi par le gouvernement, hein, qui sont donc mises en place, tout ça reste aléatoire face au surcroît de bénéficiaires de ces deux dernières années. Donc avant de commencer, moi je me tourne vers Jackie. Pourrais-tu nous faire un petit bilan du nombre d'étudiants qui se trouvent en précarité à l'échelon national, mais aussi au niveau des Hauts de Picardie, puisque bon, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les Hauts de Picardie surtout.
Alors au niveau national, bon, c'est des statistiques qui ont été faites au niveau observatoire de l'étudiant et aussi du Secours populaire, parce que c'est eux qui ont fait une statistique juste après le Covid et bah, surtout sur le retour après 2021-2022. Donc il y a 107 000 étudiants qui seraient en situation de précarité, 45 000 en situation d'extrême pauvreté. Donc c'est quand même deux étudiants sur trois dans le cycle supérieur qui sont dans la précarité, selon leurs statistiques. En 2022, enfin juste après le Covid, hein, 38% des étudiants sont en état d'être boursiers. Donc les bourses sont entre 100 et 600 euros.
Parce que les bourses, ça dépend de l'échelon.
Voilà, ça dépend de l'échelon. Donc, on peut avoir du minimum de 100 jusqu'à 600 euros. et après, bon, avec d'autres aides dans la précarité suivant les étudiants. Alors après, au niveau national, il y a le coût de l'étudiant au niveau national, sur le cours 2022, est arrivé à 6,5% par rapport à 2021. Donc il y a quand même déjà en 2021, après le Covid, ça a augmenté, mais là, surtout en 2022, ça augmente très sensiblement, surtout au niveau de l'alimentation. Bon, le loyer aussi, mais surtout au niveau de l'alimentation. Donc principalement dû à l'inflation, donc au logement, 57% du budget de l'étudiant, qui est dû à 57% du budget de l'étudiant. Donc le logement, quand même, c'est quand même...
C'est une grosse partie, oui. Ouais.
3 millions d'étudiants en 2022, quand même. 700 000 élèves boursiers. C'est quand même intéressant, hein. Enfin, intéressant. 265 000 logements à caractère social. Et là, donc 56% des étudiants... En ce moment, donc entre fin 2022 et là, le tout début 2023, avoue ne pas manger correctement tous les jours. Donc ça, c'est au niveau national. Au niveau Hauts-de-France, donc il y a quand même 80 000 boursiers. Donc c'est quand même un gros pourcentage. Donc il y a aussi... les Hauts-de-France, c'est la région la plus jeune. Donc c'est la région qui a le plus grand nombre de enfin, théoriquement, de jeunes en scolarité et dans le supérieur. Sauf que les Hauts-de-France, c'est quand même une région où c'est les jeunes où ils sont le plus précaires. Parce que c'est une région qui est
pauvre.
Qui est pauvre et qui est où les jeunes sont les moins diplômés. Ça, c'est un gros problème aussi. Donc, en comparaison, il y a quand même une... C'est quand même une région qui bouge et une région où il y a en ce moment de plus en plus de jeunes. En 2023, il y a, fin 2022 et sur cette année scolaire, il y a 235 000 jeunes qui sont dans le supérieur.
Mais alors on dit qu'ils sont moins diplômés, mais alors ça se passe comment? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont aussi sur Paris.
Oui, il y a ça aussi à tenir compte. C'est une région. Mais il y a aussi, alors c'est ce que j'ai vu dans les différences, c'est une région malheureusement où il y a de gros problèmes de mobilité. Donc là, il y a les jeunes ont du mal à bouger sur les c'est les Hauts-de-France en général. Hein, c'est pas forcément la Picardie et autres, c'est les Hauts-de-France en général. Donc là, il y a ces gros problèmes de précarité. Par contre, les Hauts-de-France, c'est une région où il y a quand même pas mal de soutien niveau par la région. Donc, il y a pas mal d'aides, pas mal de choses. Et une aide qui est quand même en ce moment contradictoire, parce que la région a remis en place, a prolongé cette aide de 1 euro pour le repas pour l'année de 2023 et peut-être 2024, mais enfin surtout pour 2023. Et l'État, l'Assemblée nationale, a rejeté cet 1 euro pour le repas.
J'ai l'article, justement, on y reviendra un petit peu plus tard. Tu as fini dans tes stats?
Pour l'instant, c'est ça, oui.
Bon, tu interviens après. Alors moi, je me tourne vers Maëlle et Charlotte. Que pensez-vous de ce bilan, les associations que vous représentez se sont penchés certainement sur ce problème et ont effectué leurs propres études. Quels en sont les résultats? Vous retrouvez à peu près les mêmes résultats que Jackie au niveau statistique, parce que vous êtes plus proche des étudiants. Qui commente, Charlotte ou Maëlle? Vas-y Maëlle, allez, vas-y.
Ce bilan, on le dresse depuis longtemps déjà. C'est-à-dire que, par exemple, la FAGE nationale et nous, au territorial, on fait le coup de la rentrée chaque année.
Alors, attends, la FAGE...
Sort autour de...
Excuse-moi, la FAGE, c'est une fédération aussi, hein.
C'est la Fédération d'Association Générale Étudiante à laquelle on est rattaché.
D'accord.
Et qui, elle, exerce son action au national. Tandis que nous, on reprend le territoire Picard. Et en fait, chaque année, toutes les fédérations de la FAGE font leur bilan à elles, donc de leur territoire et de leurs études. Enfin, leur filière, et nous, pour le territoire Picard, on le fait depuis 10 ans maintenant, ce coup de la rentrée. Et ce qu'on remarquait, c'est qu'à chaque fois, il augmente, et il augmente surtout proportionnellement aux étudiants. C'est-à-dire qu'en fait, le coût de la vie est de plus en plus cher, et à cause de l'augmentation du PIB, mais il n'y a pas forcément d'aide supplémentaire, que ce soit au niveau des bourses ou au niveau des aides qui sont déjà accordées aux étudiants. Il n'y a pas forcément d'augmentation chiffrée de ces aides-là, en tout cas, qui ne vont pas venir compenser l'inflation et la hausse du coût de la vie. Je reviens aussi sur votre intervention sur le prix des loyers. Alors, vous voyez, effectivement, c'est une grosse dépense étudiante. C'est la première dépense qu'on relève dans nos coûts de la rentrée chaque année. Nous, en Picardie, elle s'élève autour de 45% à peu près des dépenses générales des étudiants et étudiantes picardes. Et ce qu'on remarque aussi cette année en particulier, c'est que le coût de la vie au niveau alimentaire, lui, a bondi
beaucoup
plus que les années précédentes. Et ça, bah, c'est lié à la crise économique qu'on traverse en ce moment. Et c'est un peu inédit. Hein. Ce coût-là, cette année, c'est l'un des plus élevés qu'on a eu, avec une franche augmentation. Hein. On est à 6,1% supplémentaire par rapport aux autres bilans, où avant, on était plutôt autour de 3 ou 4% en plus. Donc, il y a vraiment une augmentation frappante.
D'accord.
Du coût de la vie.
Ok. On va laisser Charlotte. Charlotte, tu es d'accord avec tout ce qui a été dit?
Alors oui, bien sûr, on remarque une grande et très forte précarité étudiante. Et puis on voit que les politiques publiques qui sont menées n'aident vraiment pas du tout les étudiants. Il y a encore quelques semaines, il y a le repas 1 euro pour toutes et tous les étudiants qui a été refusé finalement à une voix près.
Oui, c'est vrai, c'était
un peu ironiquement triste.
180 contre 184, effectivement, oui.
C'est ça, à très très peu de choses près. Après, nous, on va finalement avoir beaucoup plus de visibilité aussi sur ce qui se passe pour les lycéennes, les lycéens aussi, donc bien sûr les jeunes en apprentissage, CAP, BTS, qui, eux, alors aussi, sont extrêmement précarisés, également parce que lors des stages qu'ils effectuent en entreprise, ils sont extrêmement mal payés. Les lycées pro, les CAP, souvent quand ils font les stages, ils sont exploités, ils vont travailler parfois 40-50 heures par semaine en cuisine, notamment les lycéennes et lycéens nous disent que ça peut être dans des proportions énormes pour des salaires misérables, voire en lycée pro parfois pas payés du tout. Mais donc en fait on voit finalement à quel point on utilise parfois cette main-d'œuvre lycéenne, ou alors en apprentissage c'est encadré par la loi, mais encore une fois l'encadrement par la loi est très faible. Je crois que c'est quelque chose comme 27% du SMIC mineur, donc c'est vraiment très
oui
peu c'est,
et selon les âges, effectivement.
Oui, c'est ça. Pour le travail demandé et le travail fourni, on se rend compte que c'est extrêmement faible et que les jeunes sont très précarisés par ça. Et c'est vraiment une grosse, grosse problématique.
Alors justement, on a Melvin qui est stagiaire actuellement à Radio Valois-Mulsien. Tu as fait un bac pro. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que disait Charlotte?
Non, parce que je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'elle a dit, surtout au passage des stages ou quoi, quand on est en CAP ou au lycée. C'est vrai que quand on fait un stage, on est très, très, très souvent exploité. On nous apprend très rarement le métier. Et moi, dans tout mon lycée, je crois qu'il y en a eu un ou deux qui, une fois, s'est fait payer exceptionnellement, quoi. Mm-hmm. Mais c'est très, très, très rare. Hein.
D'accord. OK. Il faudra faire une émission là-dessus. Ouais. Alors moi, j'ai ressorti effectivement la question écrite au Sénat par Didier Mandelli, Vendée, qui est en Vendée, et les Républicains. Il y a d'autres personnes aussi qui ont essayé de voir si on pouvait faire quelque chose pour cette précarité. Alors lui, il a alerté le Sénat le 24 novembre 2011 en disant que la précarité étudiante accroissait, que c'était les premières victimes de la crise économique et l'inflation. Et donc, c'est ce qu'il dit, hein, entre l'augmentation des loyers, etc. Et lui, il demandait une réponse. Alors moi, j'ai essayé de trouver une réponse de la part du Sénat. Je ne sais pas s'il a reçu une réponse. J'en sais rien du tout. Voilà. Donc, c'est vrai que les médias en ont énormément parlé de ce fameux repas à 1 euro. Et donc, il faut savoir que suite à ces articles, le gouvernement a quand même débloqué 10 millions d'euros pour l'aide alimentaire aux étudiants. Et pour eux, cette somme devait permettre à financer environ 300 000 repas par semaine. Donc, a priori, on est bien tous d'accord que ce n'est pas assez. Voilà. Et c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que ça s'est débattu, mais vraiment à une voix près, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors on a vu, hein, beaucoup de frais personnels pour se loger, se nourrir, s'équiper en informatique, acheter de la fourniture, hein, ça c'est très compliqué. Alors effectivement, il y a des aides, hein, Alors, on va parler déjà pour se nourrir, parce que c'est quand même le principal. Je sais qu'il y a un ticket à 1 euro le repas, mais pour les boursiers, voilà, qu'il y a possibilité d'avoir des repas un peu plus chers dans les cafétérias. Donc, c'est plus compliqué pour les non-boursiers. Donc, comment faites-vous exactement pour essayer d'aider au maximum les étudiants? Moi, je pense... On va aller tout de suite sur l'épicerie solidaire, puisque Maëlle, tu m'en avais parlé. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'épicerie solidaire? Parce que le conseil régional donne des aides, effectivement, lorsqu'il y a création d'épicerie solidaire, qui est gérée par des étudiants. Ça ne doit pas être facile à créer. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Oui, alors, juste avant, j'allais simplement revenir sur ce que vous disiez concernant les 10 millions d'euros d'aide alimentaire. Cet argent-là, il est versé aux épiceries hein, et aux dispositifs d'aide alimentaire et pas directement aux étudiants.
Ouais.
Et donc, il y a un fléchage de ces aides-là qui est assez précis et qui ne va pas revenir directement aux étudiants. Et surtout, il y a aussi une grosse part, à peu près 70% de ces aides-là, qui sont sous la forme d'appel à projets. Donc c'est un peu différent de 10 millions donnés aux étudiants pour manger. C'est plutôt 3 millions en brut donnés aux épiceries et aux aides alimentaires pour qu'eux-mêmes fassent le travail de RH derrière pour aider les étudiants. Et le reste qui va être attribué selon des projets, quoi.
Donc, et qui vérifie ça?
C'est juste pour nuancer un peu cette aide-là qui est intéressante, mais qui est clairement...
Tu as raison. Et il y a Gérard qui te pose une question.
Qui vérifie ça, ce versement?
Qui vérifie ce versement?
Qui vérifie ce versement, c'est ça?
Ouais. Bah oui, parce que tu dis que c'est versé à... aux épiceries, mais qui le vérifie? Comment c'est vérifié par les étudiants?
C'est versé surtout au réseau Andes et à d'autres associations qui déclarent faisant de l'aide alimentaire, mais qui sont déclarées comme telles par les pouvoirs publics. Et nous, on a déjà fait des remontées là-dessus, parce qu'il y a certaines associations qui viennent de Paris, qui vont sur le territoire et qui récupèrent des aides territorialisées, alors qu'elles ne sont pas sur le territoire, elles ne font pas d'étudiantes. Et donc nous, on a déjà fait remonter ces problématiques-là au recteur, et on attend une réponse, mais a priori, ils avaient déjà vu le problème. Donc ils sont en train de surveiller aussi, effectivement, qui part sous ces aides, et a priori, ça devrait rentrer dans l'ordre. Mais effectivement, la question est intéressante, hein, parce que c'est quand même des aides importantes, et n'importe qui ne devrait pas les recevoir.
Alors, vous, au niveau de l'épicerie solidaire, vous servez, c'est-à-dire, il y a combien d'étudiants qui viennent à cette épicerie? Donc, je suppose que l'alimentation est beaucoup moins chère.
Oui, alors en fait, nous, on a créé l'épicerie il y a 7 ans, donc en 2015 à peu près. C'est une épicerie c'est un projet de la FAV à la base, hein, qui a été lauréate de la France Engage à l'époque, donc il y a 11 ans. Il y a 36 épiceries sur le territoire maintenant, dont celle d'Amiens. Et cette épicerie, donc il y a un cahier des charges qui est très précis, effectivement il y a des fonds importants qui sont alloués pour son fonctionnement. Et en fait, nous on propose la plupart des produits disponibles sur le marché, donc comme une épicerie, quoi, donc il y a de l'alimentaire, mais aussi de l'hygiène, etc., à 10% du prix du marché. Et pour certains produits, ça va être gratuit. Je pense notamment aux produits d'hygiène ou de protection menstruelle, par exemple, ce qui vont être gratuits et qui vont permettre effectivement de lutter efficacement contre la précarité menstruelle. Au hasard, hein, c'est ça qui me vient en tête. Et pour le reste, effectivement, ça va être entre 10 et 20% du prix du marché.
D'accord.
Donc c'est très peu cher, on a des paniers importants qui sont à quelques euros. Donc ça, c'est utile. Et en nombre de bénéficiaires, on a, depuis 2015, on a souvent été autour de 100, 200 étudiants, pas beaucoup plus. Et depuis le Covid, on a triplé, ou presque, le nombre d'étudiants qui sont inscrits à ce dispositif. On a passé les barres des 520 l'année dernière. Et on maintient ce taux-là cette année.
D'accord, oui, donc énormément ont besoin.
Mais ce matin, je lisais sur Le Parisien, sur Supéco, tu connais, non?
Pardon?
Supéco qui lançait une offre pour les étudiants, c'est-à-dire que sur présentation d'une carte d'étudiant, il y avait une réduction de 10%.
Oui.
Sur leur panier de course.
10% sur les paniers de course. Tu es courant de ça, Maël?
Est-ce que nous, on est encore en dessous?
Non, mais est-ce que tu connais ce système Supéco?
Est-ce que tu connais le système Supéco ou pas?
Non, ça ne me disait rien auparavant.
Ah ben, je t'enverrai l'information, je te ferai une photocopie. Voilà.
Ça me va très bien. Voilà. Ça marche.
Charlotte, tu as quelque chose à dire, toi? Comment vous faites pour aider les jeunes? Bon, alors, en lycée, souvent, ils sont un peu plus proches de leur famille, de leur domicile. Mais pour certains BTS... Est-ce qu'il y a des aides au niveau de votre lycée ou pas?
Alors, il n'y a pas forcément d'aide au niveau des lycées. Après, nous, bien sûr, dans nos revendications, on voudrait avoir tout le matériel à disposition, gratuit, parce qu'il faut aussi savoir qu'on a un problème aussi du fait du matériel qui est souvent pas forcément aux normes. Et en fait, le manque d'investissement se traduit aussi dans le problème même pour étudier. Dans certains lycées professionnels, par exemple, je pense en ébénisterie, le matériel n'est pas aux normes et est dangereux presque pour les élèves qui peuvent soit pas travailler puisqu'ils ne peuvent pas étudier le matériel, soit en travaillant se mettre gravement en danger. Et donc ça, c'est aussi un problème que nous, on veut prendre en compte dans le sens où il faut vraiment investir au maximum dans l'éducation, dans l'enseignement, dans les lycées, dans le matériel. Et bien sûr, ensuite, rendre toutes les dépenses liées et autour de l'enseignement gratuit, que ce soit, ça c'est dans nos revendications, bien sûr, que tout soit gratuit, que ce soit les transports, la cantine, le matériel, et puis tout ce qui est au-delà de ça, même le fait de travailler chez nous, avoir accès parfois
à un
ordinateur, à Internet, pouvoir imprimer des documents. Ça, c'est pour nous, c'est des choses qui sont basiques et qui empêchent beaucoup d'élèves de pouvoir facilement réaliser certains travaux ou qui leur complexifient en tout cas énormément la tâche. Et donc voilà.
On sait, nous, pour avoir regardé, moi j'étais sur les Hauts-de-France, voir un petit peu effectivement les aides, parce que en fin de compte, chaque région, chaque département donne des aides supplémentaires que celles existant par le gouvernement. Et on sait, nous, en Haute-Picardie, il y a des fois des petites sommes qui sont données effectivement pour acheter du matériel. Jackie.
Mais ça, moi ça me fait penser, on en avait parlé à une dernière émission, justement là-dessus, c'est notamment sur la formation pour ce professionnel et l'apprentissage. Mais ça, ça revient, c'est récurrent sur les moyens. Hein. Mais est-ce qu'on va pas à terme, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence à terme entre justement le supérieur au niveau public et privé? Et là, on le voit avec les peu de moyens dans le public. Et là, est-ce qu'on fait pas tout pour justement privilégier les jeunes? Et c'est aussi la problématique des inégalités qui va arriver derrière.
Alors c'est vrai qu'on parle souvent d'égalité des chances. Hein. Trouvez-vous que celle-ci existe vraiment? Et puis, y a-t-il une fissure sociale plus conséquente dans les études supérieures? Maëlle? Attends, Maëlle. Là, rebouge parce qu'on t'entend plus. Vas-y.
Ça va mieux comme ça?
Oui, ça va mieux. C'est mieux.
Okay. Oui, moi, j'avais fait le constat déjà... d'être dans l'associatif, hein. Personnellement, j'avais fait les constats en entrant. Moi, je suis déjà en médecine. Et en rentrant en médecine, on en fait le constat assez vite, pour une raison extrêmement simple, hein. C'est que le concours d'entrée en études de santé, il est assez exigeant. Et du coup, il y a des prépas privés qui proposent un financement, enfin, qui proposent d'aider les étudiants avec des fiches de cours et des cours donnés par des profs docteurs. Mais ça coûte 5 000 euros l'année, quoi. Et du coup, il n'y a que les étudiants qui ont pu se payer ça, qui pour la plupart sont rentrés, d'autant qu'il y avait plus d'étudiants qui ont pu se payer la prépa que de places disponibles. Donc forcément, ceux qui n'ont pas pu s'offrir cette aide-là, qui était quand même une espèce de formation pour être concuriste, quoi, finalement, ceux qui n'ont pas pu se la payer ont beaucoup de base, beaucoup moins de chances d'accéder à un enseignement supérieur. Et ça, c'est quelque chose qui se vérifie sur d'autres formations, de manière un peu moins flagrante, mais quand même, pour ceux qui, par exemple, pour tous les étudiants qui ne peuvent pas être des cohabitants parce qu'ils ne peuvent pas payer un loyer, par exemple, ça va être un problème aussi, parce que du coup, ils vont bosser chez eux, ou alors, ou ils n'auront simplement pas accès au cursus, enfin, au lieu universitaire. Et donc, oui, il y a une fracture assez nette. Mais même dans le secondaire, hein, j'étais fait pour arriver au bac généraux, à l'époque il y avait déjà, je trouve, une fracture sociale importante, déjà même entre les filières générales et les filières professionnelles à l'époque, qui étaient d'ailleurs mal valorisées, je trouvais, par les pouvoirs publics. Ça change un peu, j'ai l'impression, enfin je laisserai Charlotte en parler, mais en tout cas, effectivement, on fait le constat depuis longtemps d'une fracture sociale à pas mal de niveaux et de plus en plus en augmentant dans le supérieur.
Et je voulais savoir, Maëlle et Charlotte, comment vous faites pour renseigner les étudiants? Il y a des aides? Il y en a plein, en fin de compte, d'aides. Moi, j'ai essayé d'avoir quelqu'un du conseil régional, mais bon, la personne ne pouvait pas venir. Hein. C'était l'antenne de Clermont. Et donc, elle me disait, ah, ben, allez voir dans notre guide qui est sur Internet et vous allez voir toutes les aides. Ouais, non, mais quand on voit toutes les aides, c'est... Moi, j'ai tiré là le dossier. Hein. Alors, on a trois pages, mais complètes. Et, alors, il y a le Fonds Régional Social d'Urgence FRSU, mais moi, je veux bien, mais comment font les jeunes? Alors, elle me dit, ah, mais si vous ne trouvez pas s'ils ont besoin, il faut venir dans les antennes ou nous téléphoner. Comment vous faites, vous, pour aller rechercher les informations? Parce qu'il y a le CROUS aussi. On va parler un petit peu plus tard avec les logements, mais vous faites comment?
Je ne sais pas si qui commence ou...
Ah, vas-y, Maëlle, Charlotte, tu continueras.
Moi, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'aide par de nombreux acteurs. Vous avez mentionné le CROUS, la région également, le département, effectivement. Le truc, c'est que ça, c'est un truc qu'on avait déjà discuté à l'époque. À l'époque, on voulait mettre en place le RUA, donc le Revenu Universel d'Activité. Et pourquoi ce RUA? Parce qu'à l'époque, on considérait déjà qu'il y avait énormément d'aide, mais que plus il y avait d'aide, moins elles étaient visibles. Mm. Et en fait, il y a tellement de guichets et de référents différents pour des aides différentes. On ne sait pas si on est éligible ou pas, si c'est le bon public, si... voilà. Et finalement, les étudiants partent du principe que de toute façon, ils n'auront pas accès, que ça va être long, que ça va être compliqué, qu'il faut faire des démarches, etc.
Oui, puis en plus, il y a des aides.
Des démarches à un acteur, après, il va falloir faire des démarches à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite.
Oui, parce
et
qu'il
y a... On plaide pour qu'on ait un guichet unique d'aide. Mm. Qui se pourrait gérer par le CROUS, par exemple, parce que c'est l'intermédiaire le plus suivi par les étudiants. Et l'enjeu, pour nous, ce serait de diminuer le non-recours, parce qu'il y a plein de personnes qui seraient éligibles à plein d'aides, notamment dans le monde étudiant, et qui n'y ont pas recours, parce que les aides sont trop multiples, et surtout qu'elles sont trop éparses, et qu'on a du mal à les identifier et à les cibler.
Oui,
et puis parce que s'il faut faire le tour de toutes les parties, de toutes les institutions, que d'ailleurs les étudiants ne connaissent pas forcément, c'est assez compliqué.
Mais il y a des aides qui sont pour les boursiers, d'autres aides pour les non-boursiers, des aides qui ne sont pas pour les BTS. Mais c'est bon, je vais être méchante, mais c'est un foutoir complet, quoi.
Oui, mais
puis chacun.
Je ne peux qu'appuyer propos. Hein.
De toute façon, chacun. C'est pareil, chacun.
Nous, on plaidait pour que, en fait, l'étudiant, il y a un dispositif qu'ils connaissent quand même très bien, c'est le DSE, le dossier social étudiant, et il est fait avec le CROUS. Là, en ce moment, il va être fait au cours de mars. Là. Normalement, c'est un peu plus tôt, mais souvent, ils le font au cours de mars. Et ça consiste, en gros, à construire son dossier social et ensuite à voir si on est éligible ou pas aux bourses. Et nous, on voulait, à terme, que le DSE inclue d'autres aides et qu'en le constituant, on ait tout de suite un diagnostic en fait, social de la personne qui renseigne ce dossier-là et que, du coup, on lui informe directement des aides disponibles, quel que soit le financeur, que ce soit la région, le département, etc., on s'en fout, mais en tout cas, la demande serait unique et au même moment, qui permettrait du coup d'avoir droit à plein d'aides qu'on n'aurait pas demandé auparavant.
Tout à fait. Charlotte, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, alors, en fait, c'est assez différent quand même pour nous, puisque les lycéennes et les lycéens ont souvent, il y a souvent moins d'aides qui peuvent leur être attribuées, puisque ils sont mineurs et qui sont pas toujours dans des ils travaillent pas toujours dans des entreprises ou en tant que ils font pas forcément de CAP ou quoi que ce soit. Certains et certaines, oui, bien sûr, hein, et on essaie de les aider, mais c'est pas toujours le cas. Mais en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les aides, elles sont très très difficiles à obtenir. Il y a aussi un grand manque cruel vraiment d'informations, et il n'y a pas que pour les aides pour pas lié à la précarité, hein, mais même en général, le fait de connaître ses droits pour les lycéennes, pour les lycéens, pour les jeunes en apprentissage, en CAP, c'est très difficile en fait de savoir ce à quoi on a droit, même rien que le fait de pouvoir avoir accès aux études, d'aller au lycée, parfois même pour par exemple des jeunes. Des jeunes isolés, étrangers, qui arrivent en France, l'accès à l'éducation en tant que mineur, il est fondamental et pour tout le monde. Et même quand on sait que c'est fondamental et qu'on a le droit de ça, c'est très très compliqué à mettre en place parfois et très compliqué de le faire appliquer partout. Donc même là où il y a des droits et on est censé recevoir des aides, c'est parfois compliqué de les recevoir et de savoir...
Et souvent en retard, oui.
Oui.
Moi, oui, je voulais vous poser la question à tous les deux, là. Est-ce que vous connaissez le site aidesociales.fr?
Oui,
alors bon, il y a de nombreuses aides sociales hein, qui sont versées en France via la CAF, hein, Pôle emploi ou d'autres organismes. Il suffit d'être jeune et étudiant et avoir moins de 26 ans. Donc ça concerne plusieurs jeunes hein, à la recherche d'un emploi ou autre. Il y a des aides pour les étudiants, des aides au logement, des aides pour la santé, pour le transport et pour le loisir. Et donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Il y a un fonds national d'aide urgence pour obtenir une aide passagère dans l'année hein, ou ponctuelle en un seul versement qui est de 2 701 € maximum et qui peut être accordé deux fois. Et l'aide annuelle s'élève quand même à 5 402 maximum. Donc ça peut être intéressant. Mais je suppose que ça, la plupart des jeunes, vous n'êtes pas au courant.
Non, en effet, je pense qu'ils ne sont pas au courant. Hein.
Voilà. Après, il y a le dispositif VISAL. Bon, ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ça concerne pour une aide au logement, parce qu'on me fait signe. On va donc mettre un petit intermède musical.
Ça m'empêche pas de dormir, mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs.
C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim, mais ça le deviendrait si on n'y change rien.
Notre thème du jour, la précarité des étudiants. Pour cela, nous recevons Charlotte Boisan, du Mouvement national des lycéens, secrétaire générale et déléguée aux féministes, ainsi que Marcel Herman, de la FAEP, Fédération des associations étudiantes Picardes, qui est porte-parole et vice-président aux affaires académiques. Nous avons écouté Les Enfoirés, la chanson des restos, version 1985.
Oui, comme quoi que c'est toujours d'actualité. Voilà. Moi, je voulais revenir effectivement. Moi, je voudrais faire parler un petit peu, Melvin, sur tout ce que tu as entendu au niveau de la première partie. Tu as quelque chose à rajouter et que penses-tu, en fin de compte, de tout ça?
Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, c'est une année très, très, très compliquée et particulièrement depuis le Covid, j'ai remarqué, puisque... à titre personnel, par exemple, on a parlé de beaucoup d'aides. Moi, la moitié des aides qu'on a parlé là, je n'étais aucunement au courant. Il n'y a personne qui m'en a parlé. Je pense que même la plupart des gens ne savent pas.
Mais tu t'étais pas renseigné ou personne...
Si. Je m'étais renseigné parce que moi, je devais aller à la fac. Et il me dit la seule solution pour que tu trouves un appart à la fac, par exemple, c'est d'avoir le CROUS.
Oui.
Mais alors, mission impossible pour les contacter.
Tout à fait.
Ils m'ont dit, à un moment donné, avec ma mère à l'époque, on s'était dit qu'on allait devoir se déplacer directement à Amiens, les voir, pour potentiellement avoir un appartement. Mais c'était même pas sûr, et nous, on n'avait pas les moyens de faire un aller-retour avec le prix de l'essence qui augmentait. Donc moi, j'ai dû renoncer à la fac, aux études, pour pouvoir commencer à travailler, pour pouvoir commencer à vivre une vie et tout ça. Après, c'est compliqué. Moi, je connais même des gens autour de moi qui ont eu la chance d'aller dans les études supérieures, et qu'ils enchaînent 2, 3, 4 travails d'affilée.
Ouais,
enfin, j'exagère un peu en disant 4.
Non, mais c'est ça, oui.
Ils enchaînent énormément. Moi, j'en connais qui font des burn-out, qui se tuent au travail pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, pour payer leur appartement, pour payer leur essence de voiture, parce que maintenant, sans voiture, on va nulle part, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un peu de liberté, de se faire plaisir avec des amis ou quoi. Les trois quarts du temps, ils s'en privent. Ils se privent de tout, et c'est... dodo, boulot, métro, enfin comme on dit.
Comme on dit, voilà, ouais, métro,
rétro, boulot, dodo, quoi. Et c'est exactement le quotidien d'un jeune de mon âge, donc de 21 ans, et moi je trouve ça triste.
Alors peut-être qu'on n'en parlait pas avant, effectivement, parce que là, ça a vraiment... on en a vraiment parlé après le Covid, peut-être parce que ça s'est empiré, effectivement, et puis que les médias se sont accaparés ce sujet-là, mais c'est vrai qu'on ne parlait pas tellement de la précarité des étudiants auparavant.
Le statut de l'étudiant, la précarité, ça fait quand même un moment.
Oui, mais là, avec l'inflation, je pense que tout ce qui s'est passé, voilà, ça a empiré.
Que je dis peut-être une grosse bêtise, j'en sais rien du tout, mais je me dis, vu qu'on a souvent la mauvaise image des jeunes d'être des feignants, je me dis, ces gens-là, peut-être qu'ils se disent, on n'a pas envie d'aider des gens qui n'ont pas envie de travailler, tout simplement.
Oui, c'est une fausse image qu'on se donne des jeunes.
C'est ça, une très très fausse image parce qu'ils bossent beaucoup.
On va en parler justement, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, alors concernant les loyers, il y a des aides comme l'APL, effectivement. Et il y a ce fameux dispositif VISAL qui s'adresse à tous les jeunes de moins de 31 ans qui ne peuvent pas trouver un garant pour la location d'un logement. Donc, c'est une demande qui se fait en ligne directement sur aide-du-6-social.fr. Donc ça peut aussi aider les jeunes. Donc effectivement, on va aller peut-être là-dessus tout de suite parce que Melvin a fait part effectivement qu'il y avait beaucoup de jeunes qui travaillaient et trouver un job pour pouvoir un petit peu s'organiser et vivre décemment. Mais là-dedans, on a peut-être un problème aussi au niveau de la santé. Car du coup, la santé, on peut dire, est laissée de côté face au manque de moyens, le stress des études, l'angoisse des derniers jours du mois. Et on a relevé un mal-être de l'ordre de 70% chez les étudiants, avec parfois des pensées suicidaires de l'ordre de 36%. Mmh. On a remarqué que c'est en hausse de plus 6% depuis...
Les 40% qui renoncent au soin.
C'est ça. Je tiens à préciser aussi que les jeunes sont tellement désespérés, parce que j'en ai connu beaucoup quand j'étais au lycée, qui étaient désespérés et qui, à 16 ans, faisaient un décrochage scolaire et quittaient l'école et tout ça pour pouvoir commencer directement à travailler, tellement qu'ils étaient en détresse totale.
Alors c'est vrai que ça, la santé est mise à rude épreuve, c'est vrai. Alors effectivement, moi je voudrais savoir, il y a des aides gouvernementales qui ont été octroyées pour les étudiants en souffrance. Est-ce que c'est suffisant Il y avait des heures gratuites en psychologie qui avaient été mises après le Covid-19. Est-ce que c'est toujours en cours ou pas? Et je voudrais aussi que vous nous parliez de la mutuelle étudiante, justement. Charlotte, tu commences?
Alors oui, alors bon, c'est vrai que en effet c'est quand même quelque chose de très important, la santé, et on parle de précarité depuis tout à l'heure, mais c'est vrai que la précarité aussi psychologique qui est liée à tout ça, elle est très très forte. Alors moi je peux pas trop parler pour les étudiants puisqu'on voit beaucoup plus ce qui se passe au niveau des lycées. Mais on se rend compte que même avec dans toute la période du Covid et puis même aujourd'hui avec tout le stress qui est engendré, le fait aussi d'avoir des filières qui sont dévalorisées, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'élèves qui sont dans des situations psychologiques très très compliquées, on se rend compte que l'école n'est pas du tout un environnement qui soit propice un environnement où les élèves se sentent à l'aise. Et il y a très peu de choses finalement qui sont mises en place, et c'est un peu le problème, c'est que par exemple on a un énorme manque de PIEN dans les lycées qui devraient être là justement pour accompagner les élèves en souffrance et en détresse psychologique. Je sais même que je crois que dans le 91 il y avait élève d'un...
Oui, vas-y.
Oui, il y avait une élève d'un lycée qui me disait qu'il y avait eu dans son lycée des problèmes, notamment des élèves qui avaient fait des tentatives de suicide, ou certains élèves qui s'étaient suicidés. Il y avait eu pratiquement aucune prise en charge psychologique des élèves par la suite. Et là, on est quand même dans un cas extrême, puisque forcément que c'est des choses très graves. On a particulièrement besoin de soutien et de psychologique par rapport à ça, mais même plus généralement, il y a énormément d'élèves en souffrance dans les lycées, que ce soit par rapport à du stress lié aux filières, aux examens, aux concours, à Parcoursup.
Oui, c'est en Parcoursup, oui.
Ou à lié aussi à la situation des parents, parce qu'il y a aussi des parents qui sont en grande précarité. Mmh. Donc il y a plein de choses, en fait, et on a un manque énorme de PIEN et d'écoute même plus générale pour mettre en place, parce que les PIEN c'est bien, mais il faut vraiment mettre les conditions en place pour que les élèves se sentent bien dans les lycées et prendre en compte en fait ces problèmes.
Ok, on va demander à Maël, lui, ce qu'il en pense. Ce que nous disait Maël, hein, c'est vrai que la précarité, ça accentue le mal-être. Moi, je vais poser plus à Maël cette question. Et on se rend compte quand même, pour s'échapper de ce quotidien, certains vont se réfugier dans l'alcool ou dans la drogue. Il faut savoir que le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. On oublie souvent de parler aussi du manque de communication, l'isolement des jeunes, peut-être aussi le harcèlement. Est-ce que vous avez pu, vous, au niveau des étudiants, identifier d'autres sources de mal-être ? Et avez-vous des cellules d'accompagnement dans les universités ou pas ?
Alors, côté étudiant, déjà, je voulais dire que la problématique de santé mentale existe depuis fort longtemps, mais qu'effectivement, elle a été médiatisée et connue du grand public que depuis le Covid. Où à l'époque, on avait eu des chiffres très alarmants sur la santé mentale des étudiants et des étudiantes. Ce qui est source d'angoisse, effectivement, c'est surtout la précarité financière en règle générale, hein, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir payer toutes ses charges avant la fin du mois, l'angoisse de ne pas rechercher ses études, de se tromper, ou aussi l'accueil en stage ou dans le milieu professionnel. Il y a énormément de choses en fait qui vont venir impacter la santé mentale des étudiants. Est-ce qu'il y a des cellules d'écoute ? Oui. De toute façon, c'est obligatoire maintenant qu'il y ait des cellules d'écoute sur pas mal de thèmes différents. Souvent, c'est sur le harcèlement, par exemple, où c'est obligatoire. Nous, à l'université, et notamment pour les étudiants en santé, on a une cellule d'écoute très large, voilà, qui peut prendre en charge les étudiants et étudiantes sur n'importe quel domaine. Mais dans l'absolu, on a aussi le SSU qui fait un travail formidable sur la prise en charge de la santé des étudiants. Avant le Covid, il n'y avait qu'un psychologue, et maintenant, ils en ont 5.
D'accord.
Donc, ça a été augmenté grâce à des aides gouvernementales qui, là, pour le coup, ont eu un effet important, mais ça reste quand même assez faible, parce qu'il y a quand même des étudiants du PJV à Amiens, on a à peu près 25 000. Donc, pour 5 psychologues, j'espère qu'ils ont envie d'avoir des journées remplies, parce que sinon... ça va être compliqué, mais effectivement, il y a une demande très importante hein, de soins en santé mentale, qui sont encore d'ailleurs mal perçus du grand public, je voulais dire, sur l'image que ça a d'aller voir un psychothérapeute ou un psychologue, alors que c'est quelque chose de tout à fait... qu'il ne faudrait pas pointer du doigt ou dramatiser, mais c'est quand même quelque chose qui peut être moins bien perçu que d'aller voir un médecin, par exemple.
D'accord.
Donc, effectivement, ça pour dire qu'on a en tout cas une réponse intéressante à ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez qu'on parle d'échec psy, par exemple, ben, c'est clairement insuffisant. Le SSU, pareil, il y a 5 psychologues, c'est vrai, mais on n'a pas forcément... un suivi très long sur il y a une dizaine, une quinzaine de séances qui vont être accordées à chaque étudiant, donc c'est pas non plus énorme quoi, ça va pas être du soin au long cours.
Oui, donc, après ils sont laissés pour compte.
Pour avoir un suivi long, hein, chronique on va dire de la santé mentale et faire tourner vers des psychologues en ville, et là ça va monter cher.
Mais je vais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas fait qu'augmenter tous les malaises qu'ont les étudiants ou les lycéens ?
Ben ça, c'est une excellente question et ça m'a beaucoup questionné en grandissant. Et j'avais regardé pour savoir un petit peu le film « Derrière nos écrans de fumée », que je conseille d'ailleurs, qui parle un peu de l'impact des réseaux sociaux sur la façon dont les gens perçoivent la réalité. Et notamment les jeunes, et il y avait une corrélation effectivement entre le mal-être et le taux de suicide l'introduction des réseaux sociaux sur le smartphone. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça dénote quand même un impact corrélé assez négatif des réseaux sociaux sur le grand public. Donc je sais pas trop comment lutter ou vraiment étudier ce phénomène-là. J'ai vu que TikTok essaie de réduire, d'inciter ses utilisateurs à réduire leur consommation de ce réseau. Bon, j'espère que ça marchera. Maintenant, c'est une question qui est assez délicate en effet, et je pense qu'il y a un vrai sujet de société à se poser là-dessus.
Parce qu'on entend un peu tout et n'importe quoi, hein.
En fait, ça, on l'a surtout vu pendant le Covid, c'est-à-dire que quand on a commencé à voir fleurir mille et une théories du complot sur les réseaux sociaux qui se sont répandues extrêmement vite, hein, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir des statistiques expliquant que une fake news, comme on dit, se répand 10 fois plus vite qu'une information vérifiée. Effectivement, ça pose vraiment un sujet social important quand on considère aussi que la plupart des jeunes ne s'instruisent maintenant plus que par Internet. Non pas que la télé et les radios soient forcément gages ou garantes d'une fiabilité plus importante, mais quand même, sur Internet, il y a quand même de tout. Hein. Il y a des informations qui sont très vérifiées, très sourcées, et d'autres juste à côté qui vont être particulièrement problématiques. Et je pense qu'on a encore du mal à faire la part des choses. Nous, d'ailleurs, on en parlait avec la FAL, justement, on a une revendication sur la citoyenneté des jeunes et sur leur rapport au monde, qui consiste en gros à ajouter des cours d'études des médias et de la désinformation dès le lycée, pour que les jeunes essayent d'avoir des notions stables pour entrer dans ce monde-là avec des armes adéquates.
D'accord. Le message est passé. Nous, on voudrait essayer de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là, pourquoi notre jeunesse française souffre-t-elle. Alors, on suppose effectivement c'est peut-être aussi les familles qui ont de plus en plus de difficultés financières, hein, qui ne leur permettent plus de subvenir aux besoins des jeunes en études supérieures. Alors, on pourrait penser effectivement qu'aujourd'hui, un nombre plus important de jeunes de milieux défavorisés ou des étudiants étrangers qui font leur cursus en France poursuivent des études et accèdent aux universités. Une hypothèse pour comprendre la précarité de certains jeunes, mais la réalité est tout autre. Hein. En s'informant un peu plus, on s'aperçoit que même les parents de classe moyenne sont impactés pour subvenir aux besoins des jeunes. On peut noter aussi des droits d'entrée qui ont augmenté chaque année, un surplus financier qui accentue la précarité de certains jeunes. Et malgré les bourses sur critères sociaux, hein, on voit que ça s'accroît. Faut-il changer les critères sociaux pour obtenir des bourses ?
Alors, je peux commencer si...
Vas-y, oui.
si vous le sentez, ça va me permettre de parler d'un... Alors nous, ça fait à peu près 10 ans qu'on aimerait non pas changer les critères sociaux, mais changer totalement le système de bourse. Nous, on fait la critique à l'heure actuelle du système de bourse. On trouve qu'il est pas optimisé et mal adapté au territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on a voilà, les critères sociaux, les seuils. Donc voilà, vous êtes échelon 0 bis ou échelon 6. Et selon votre échelon, vous avez une somme, alors qu'on n'est pas tous égaux dans le même échelon d'ailleurs. Et donc nous, on aimerait réformer ce système-là. En effet, on trouve que c'est nécessaire. Et on chiffre, cette demande-là est chiffrée, elle est assez élevée. Mais à nos yeux, elle est nécessaire pour accompagner durablement les étudiants et les étudiantes, et surtout pour les émanciper. Donc en fait, le constat qu'on fait à l'heure actuelle, c'est que les étudiants et les étudiantes sont dans la prolongation un peu de leur adolescence. Et en cela, ils sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Et donc, si les parents suivent, en général, ça va. Mais si les parents suivent pas, ils ont du mal, c'est difficile déjà pour eux financièrement, et ben on se rend compte que ça va avoir un impact important. J'ai regardé sur l'OVE, le rapport de l'OVE, les étudiants, ça va être 46% de leurs revenus, c'est les parents qui leur donnent, quoi. Donc c'est très sensible. Si les parents ne sont pas capables de subvenir ces besoins-là, on tombe très vite dans une précarité importante. Et donc nous, on pense qu'il faut absolument augmenter la part des revenus d'aide publique pour les étudiants, pour leur assurer une stabilité. Et ça passe par une réforme des bourses qu'on plaide, qui revaloriserait les bourses et qui s'inspire pas mal du modèle danois, d'ailleurs, avec une vision un peu plus territoriale. Nous, on considère que vivre à Paris et vivre à Amiens, c'est pas la même chose. Et donc, on aurait une aide de la CAF, par exemple, qui serait échelonnée en fonction du territoire dans lequel on vit, par exemple. C'est quelques critères, enfin, quelques aspects de cette réforme qu'on propose, que je vous... les explicites ici.
D'accord, mais bon, une carte à l'échelon national, c'est pas mal, mais il faut dire aussi que les salaires sont plus forts au niveau de Paris par rapport si on va travailler en Dordogne. Donc voilà, mais donc il faut faire attention à ça aussi.
C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas que un aspect territorial de cette bourse-là, il y a aussi un aspect de revenus de l'étudiant. Alors comme là, à l'heure actuelle, on prend en compte le revenu des parents, parce que si on prend en compte le revenu de l'étudiant, c'est la carrière familiale, et c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, nous, on aimerait prendre en compte tout de suite, en fait, dès la sortie du lycée, prendre en compte tout de suite le revenu de l'étudiant pour le considérer comme un jeune émancipé, quoi. Il a ses revenus et il a... C'est une entité fiscale à part entière, quoi.
Tout à fait. Donc, je vais laisser un peu la parole à Charlotte, parce que j'avais une question à lui poser. Charlotte, t'es toujours là, hein?
Oui, bien sûr.
Voilà. Au niveau européen, les étudiants sont-ils à la même enseigne que nous, hein, et connaissent-ils les mêmes soucis que nos étudiants? Je sais que tu... Parle-nous un petit peu, hein, tu as été donc... Ah ben mince, je ne sais plus. Au Luxembourg, non?
Alors en fait, on fait partie... Alors c'est pas au Luxembourg, mais en fait, le MNL fait partie de l'OBESU, qui est donc une organisation européenne qui regroupe... plein d'organisations européennes, enfin de différents pays européens qui se battent pour les droits des élèves dans leurs différents pays. Donc il y a beaucoup d'ailleurs de projets avec l'OBESU qu'on peut faire et qui nous permettent aussi de discuter des différentes problématiques qu'on va tous et toutes rencontrer ou pas selon là où on habite et partout en Europe.
Et ils ont le même problème que nous au niveau de la précarité. Est-ce qu'ils ont autant d'aide ou moins?
Alors, en fait, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est vrai que il y a des pays où il y a beaucoup plus finalement d'aide. Dans les pays nordiques, par exemple, il y a des salaires, des revenus en fait étudiants qui leur sont octroyés. Chaque mois, donc qui leur permettent et qui sont donc pas sur la base de bourse ou quoi que ce soit, en fait, qui sont pour tous et les étudiantes et les étudiants. Et en fait, on voit à quel point c'est important parce que aujourd'hui en France, les bourses sont attribuées sur certains critères précis, mais en fait, ils devraient être donnés à tout le monde, étant donné qu'en fait, c'est extrêmement difficile pour. Enfin, il y a très peu. D'étudiantes et d'étudiants aujourd'hui qui vivent dans des conditions simples et qui n'ont pas de problème pour se loger, pour se nourrir.
Tu sais, Charlotte, ils ont déjà du mal à donner le repas à 1 euro pour tous les étudiants. en France. Donc je pense que la bourse ou une aide pour tous les étudiants, ça risque d'être très compliqué, surtout quand on entend pourquoi ils n'ont pas voulu donner ce repas à 1 euro, parce qu'ils avaient peur que certains jeunes riches profite de ce repas à 1 euro. Enfin, c'est un petit peu ridicule, mais donc je ne vois pas comment on peut faire pour que tout soit accepté pour tous les étudiants au même tarif. Ouais, vas-y.
Alors, on est bien d'accord que ce n'est pas du tout dans le sens de la politique qui est menée aujourd'hui par le gouvernement, mais en fait, ce qu'on rend compte, c'est aussi une question de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des millions qui vont être mis dans le service national universel, dans certains types de réformes ou d'initiatives du gouvernement qui ne sont pas forcément d'ailleurs qui ne vont pas forcément être positives, que ce soit pour les lycéens, que ce soit pour les étudiantes, les étudiants. Mais en fait, c'est une question aussi de choix qu'on fait, où est-ce que l'argent est mis. Nous, on pense que c'est extrêmement important d'avoir une école qui fonctionne, d'avoir du matériel, d'avoir des élèves qui ne soient pas dans des situations extrêmement précaires, parce que comment peut-on étudier en fait dans des si mauvaises conditions de vie. Et enfin, nous, ce qu'on pense, c'est que au niveau de savoir pour la répartition entre étudiants plus ou moins riches, alors déjà il y a assez peu d'étudiants qui ont énormément de moyens, et pour ceux qui ont énormément de moyens, en fait on pense que ça doit se passer à un autre moment, c'est-à-dire que la répartition, elle doit être faite avant. C'est comme, d'ailleurs pour ça qu'on veut aussi une cantine gratuite, et certains vont me dire mais certains peuvent la payer. En fait, ce qu'on pense, c'est qu'on doit d'abord prendre l'argent chez les personnes les plus aisées, et ensuite que cet argent permette à toutes et tous d'avoir accès aux soins basiques, à un revenu étudiant qui soit octroyé à toutes et tous, à la cantine. En fait, la répartition, elle doit se faire avant et ensuite pour permettre à tout le monde d'avoir accès au même, d'être logé à la même enseigne.
Alors, on peut se demander aussi pourquoi qu'au niveau européen, ce n'est pas toutes les mêmes aides, hein, puisqu'on veut uniformiser tout ça. Sur le site européen, alors moi, je suis allée voir dans éducation, formation et jeunesse. Alors, on trouve des articles sur la prise en compte de la formation, la coopération des établissements d'enseignement supérieur, l'innovation dans le domaine de l'éducation, l'existence de bourses ou d'aides sont répertoriées. On ne parle en aucun cas de l'étudiant, de ses doutes, de ses angoisses, de sa santé. Et au niveau européen, faudrait-il attribuer les mêmes droits, les mêmes aides pour vivre décemment? Pourquoi, comme vous le disiez tous les deux, ne pas copier le modèle du Danemark, où ils ont 800 euros de bourse durant 6 ans non remboursables, même s'ils arrêtent leurs études. Et cette bourse est versée à chaque étudiant, quel que soit le revenu des parents, donc indépendance financière. Ça, ce serait vraiment parfait. Hein. C'est là-dessus aussi que vous allez demander si c'est possible de faire ça en France. Et il faut savoir que les études supérieures ne sont pas gratuites. Au Royaume-Uni, celles-ci peuvent coûter jusqu'à 50 000 euros. Et en France, des jeunes prennent des prêts étudiants endettés avant de devenir salariés. Et justement, il y a la possibilité, alors je ne sais plus si c'est sur aidesociales.fr, d'avoir des prêts étudiants avec des banques qui aident un peu plus les étudiants. Pour vous, quels seraient donc les moyens pour éviter une telle situation? Trouver un job, est-ce que c'est la seule solution pour s'en sortir pour les jeunes, pour les étudiants notamment? Maëlle, si tu peux répondre.
Oui, je comprends très bien la question, mais les jobs étudiants, c'est pas une solution viable. On le voit sur le rapport de l'OVE, pareil, il parlait des jobs étudiants. Alors il y a ceux qui vont être dans le sens des études, par exemple l'étudiant en santé qui vont être soignants pendant un temps, bon, à la rigueur ils vont à l'hôpital, ils peuvent réviser un peu, enfin ça va pas venir concurrencer leurs études. Maintenant il y a plein de jobs étudiants qui viennent directement concurrencer les études. Je pense à ceux qui vont devoir travailler à McDo par exemple, avec un rythme de travail compliqué, etc. Et au-delà d'un certain taux horaire par semaine, il y a un impact direct sur la qualité et la réussite scolaire et académique des étudiants et étudiantes. Et ça, c'est quelque chose de un peu scandaleux, quoi, parce que ça veut dire que les étudiants doivent travailler pour subvenir leurs besoins, mais qu'en même temps, ça va venir affaiblir leurs résultats et leurs performances académiques, et du coup, ça va les empêcher d'avoir un master, finalement, ou en tout cas, ça va réduire leur champ d'en avoir un, je pense notamment aux filières en tension, donc droit, psychologie, STAPS, etc. Et donc c'est une solution, c'est celle que la moitié des étudiants et étudiantes trouvent, hein, pour pouvoir étudier. Nous, on aimerait bien, à travers, encore une fois, notre projet de réforme des bourses, que les étudiants soient plus obligés de travailler pour subvenir leurs besoins. Ce serait vraiment l'idéal. Et ça nous permettrait effectivement de les laisser libres de réviser, de travailler sans avoir besoin de subvenir eux-mêmes à leurs besoins.
Ok. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la région des Hauts-de-France soutient l'emploi étudiant et elle crée des contrats de travail de 10 heures hebdomadaires maximum directement sur les campus. Est-ce que c'est le cas chez vous ?
Oui. Il y en a effectivement quelques-uns. Alors, c'est intéressant. L'idée est intéressante parce qu'effectivement, avec 10 heures par semaine, on va pas... on ne va pas trop impacter sur les études. Cela dit, sur le plan philosophique, je trouve ça quand même dommage de devoir travailler même 10 heures par semaine pour subvenir à ses besoins, pour pouvoir jouer d'un système public, enfin, un service public qu'est l'université, auquel normalement on devrait avoir accès plus facilement. Et donc, je comprends l'idée de la région de soutenir ça pour que les étudiants puissent travailler et avoir des contrats facilités, etc. Mais en même temps, j'aime pas trop l'idée de préférer pérenniser cette situation-là plutôt que de chercher des solutions activement sur les aides publiques.
D'accord. On a compris. Par contre, moi, il y a quelque chose. J'ai lu un article. Alors, c'est aussi bien pour l'un et l'autre, mais je crois que Maëlle est peut-être plus concernée. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers, hein, qui viennent faire leur cursus en France, et notamment les étudiants russes. Et j'ai été étonnée de lire, en fin de compte, et je me demande s'il y a eu déjà des problématiques avec d'autres étudiants étrangers. La problématique du ressenti, ils sont pris à partie, a priori, en raison des actes de guerre, hein, du gouvernement russe. Ils y sont pour rien, les pauvres. Et vous qui êtes plus dans le partage entre vous, comment vous pouvez aider ces étudiants étrangers qui souffrent d'isolement et réellement de précarité? Par exemple, on peut lire sur certains... médias, qu'il y a des jeunes qui ne peuvent pas percevoir l'argent que leur envoient leurs parents, ou alors même s'ils veulent un prêt étudiant qui est accepté par les banques, même quand on est étudiant étranger. Et donc, tout se passe bien, mais quand on dit « Ah, ben, on est russe », là, toutes les portes se ferment. Dans ce cas-là, comment vous faites pour aider les jeunes? Toi, tu as peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, Jackie, non?
Moi, aux dernières informations que j'ai, il y a, tout est bloqué. Tout est gelé, aussi bien au niveau des financements de Russie en France, de justement d'étudiants ou de familles. Tout est bloqué. Il faut passer par des canaux indirects.
D'accord. Et il y a même une jeune fille qui disait effectivement qu'elle n'a même plus de liens. En général, c'est des liens entre campus, université, donc université en France, université à Saint-Pétersbourg, par exemple. Et là, c'est pareil, tout a été coupé. Donc, en fin de compte, la pauvre, pour finir son master, c'est grâce à ses professeurs qui ont continué à lui donner quand même des cours.
Mais au niveau des chefs, de toute façon, tout est bloqué au niveau de l'éducation et il y a des grands chercheurs, il y avait un article la dernière fois, là, les chercheurs français le déplorent, mais il y a des grands projets de recherche qui ont été complètement bloqués du jour au lendemain et qui bloquent tout de chaque côté, qui étaient liés avec des universités sur Moscou et sur, au niveau français. Hein. Donc ça incombe les chercheurs, les profs, mais ça incombe aussi les chercheurs au niveau étudiant.
Et il y a même un problème peut-être parce qu'ils ont cette angoisse de perdre leur visa. Est-ce que tu as ce cas-là, toi, de personnes, d'étudiants étrangers? Ça peut être très bien des visas africains qu'on ne donne plus. Comment vous faites pour les aider?
Alors les étudiants étrangers, ils sont accueillis par la direction des relations internationales. quand ils sont étudiants à l'université, hein, qui s'occupent d'eux et voient un peu comment les rediriger pour un logement CROUS souvent ou des choses comme ça.
Erasmus aussi, non? Erasmus peut-être? Tu m'entends? Ah, on a perdu Maël.
Ah oui, c'est celui-là.
Oui, ah, excuse-moi. Oui, tu me parlais du CROUS, mais il y a peut-être aussi Erasmus.
Oui, oui, effectivement, Erasmus va. Après, Erasmus, il y a des fonds alloués pour ce programme-là spécifiquement. Donc au niveau financier, ça va déjà un peu mieux. Mais nous, la problématique, ça va être surtout pour les étudiants d'origine africaine, par exemple, où on va avoir un problème de financement, notamment avec le plan à l'époque Bienvenue en France, où nous, on a réussi à l'université à arbitrer un peu mieux que ça l'arrivée des étudiants étrangers en règle générale, parce que en fait, faut savoir que ce plan-là, Bienvenue en France, il augmente les frais d'inscription des étudiants étrangers, et que les universités avaient le choix de choisir quels étudiants allaient payer ou non. Et nous, on a compris un peu le message et on a essayé de pas l'appliquer. Du coup, donc on a arbitré que les étudiants qui sont en licence, quelle que soit leur origine géographique, qui paieraient les frais. Mais ça fait déjà très cher. Et ensuite, vous parlez des étudiants russes. C'est ça?
Oui.
J'ai pas connaissance d'étudiants. Il y a des étudiants russes effectivement à l'EPJV. J'ai pas connaissance de difficultés particulières en plus pour eux que pour d'autres étudiants et étudiantes. À vrai dire, j'en ai pas beaucoup. Si on a un cas de toute façon qui se présente comme ça, on le fera remonter directement à nos contacts sociaux à l'université et au CROUS. Et je doute pas qu'on arrivera à les aider à ce niveau-là.
D'accord, oui, je pense qu'on est assez humain pour faire quelque chose pour ces étudiants étrangers qui viennent en France. Hein.
Bien sûr.
Alors, moi, j'avais un petit peu cette question. Quelles sont les améliorations à effectuer pour donner les mêmes chances à chaque étudiant venant d'horizons et de milieux différents?
De la même manière, ça a été fait avec le plan Bienvenue en France, mais auparavant il n'y avait pas de guichet unique et maintenant il y en a un. Donc déjà quand les étudiants étrangers arrivent en France, ils ont accès à toutes les informations, toutes les aides en même temps, au moment de leur inscription, donc ça c'est pas mal utile. Ce qui va vraiment perturber les étudiants étrangers, c'est qu'il y a peu d'accompagnement une fois qu'ils sont sur place. C'est-à-dire que pour arriver, ça va, mais une fois qu'ils sont sur place, ils sont pas, il n'y a pas de guide pour qu'ils puissent découvrir le pays ou la culture qu'on aide il n'y a pas forcément de mixité non plus, quoi. Les étudiants étrangers souvent se réunissent entre eux. Il n'y a pas forcément de lien avec les étudiants de métropole, quoi. Et donc il n'y a pas d'accompagnement logique comme ça.
D'accord.
Et donc on essaie de trouver des solutions pour qu'il y ait des binômes ou en tout cas des rapports comme ça où on intègre, si vous voulez, des étudiants étrangers qui seraient pour 6 mois ou 1 an pour les aider notamment à s'accoutumer en fait à leur nouveau cadre de vie, ce qui n'est pas forcément évident pour les étudiants étrangers qui viennent parfois de très loin. Et ça c'est un vrai enjeu, hein, parce que du coup il y en a beaucoup qui vont être isolés socialement parce qu'ils vont pas trouver de groupe, ils vont pas trouver de binôme, ils vont pas trouver de groupes sociaux, quoi. Et ça va être un problème parce que pour suivre leurs études après, c'est un peu compliqué.
Mmh. Oui, effectivement, il faudrait mettre des tuteurs. Oui, Charlotte, tu voulais dire quelque chose?
Oui, nous aussi, en fait, on remarque que c'est extrêmement compliqué pour les étudiants étrangers quand ils arrivent en France. Et notamment, nous, on voit plutôt le cas des mineurs isolés étrangers, mais en fait, on se rend compte à quel point, quand ils arrivent, ils sont censés pouvoir être logés, ils sont censés, parce qu'ils sont mineurs, donc normalement, les droits de l'enfant font que ils doivent pouvoir avoir accès à l'éducation, ils doivent pouvoir accès à un logement. Et on se rend compte que c'est pas du tout le cas et que les structures qui doivent être mises en place, l'ASE par exemple, et la préfecture, ils ne font pas leur travail. Enfin, disons qu'ils ne font pas leur travail tout simplement parce qu'on ne donne pas l'argent là-dedans. Mmh. On donne très peu de place pour donner une idée. Souvent, lorsqu'ils arrivent, les jeunes mineurs isolés étrangers, tous les jours doivent revenir tous les matins pour tenter d'avoir une place d'hébergement pour le soir. Et ils reviennent comme ça pendant des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce qu'on finisse par leur octroyer une place dans un hôtel. Et là, c'est même pas, on parle même pas d'avoir accès aux études, hein. On parle juste d'avoir accès à un endroit où ils peuvent dormir au chaud, même pendant l'hiver ou pendant ce type de période-là, où, alors qu'ils sont censés même y avoir la trêve hivernale. Mais... Donc on se rend compte à quel point. Et ensuite, une fois que c'est fait, le suivi est très compliqué, parce que bah, bien sûr, il y a trop peu de personnes pour s'occuper de tous ces jeunes-là, ces personnes qui sont assez précarisées. Donc les jeunes sont très, très mal suivis, très mal accompagnés. C'est à des associations, à des collectifs de prendre en charge l'aide pour pouvoir les mettre en contact avec les bonnes personnes pour pouvoir suivre un
survivre
stage,
voilà.
Et puis s'ils veulent intégrer un cursus d'études, c'est très compliqué parce qu'ils savent qu'à 18 ans, à tout moment, on peut leur dire que puisqu'ils n'ont pas un travail fixe, et ben, ils vont être visés par une obligation de quitter le territoire français. Donc en fait, c'est extrêmement stressant et en plus, il y a une méconnaissance de leurs droits parce que même dans les établissements où ils sont inscrits, où ils sont censés pouvoir suivre leurs études, on va leur dire « oui, vous avez besoin de tel papier ». Ils sont que bah, s'ils n'ont pas tel papier, ils vont penser que c'est obligatoire, alors que parfois, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, mais même les proviseurs, tout le monde n'est pas non plus instruit et sait exactement comment ça fonctionne. Parce que normalement, il y a des choses qui sont censées être mises en place. On n'est pas censé avoir besoin de cartes d'identité forcément pour passer certains concours. Et ça, il y a une méconnaissance des droits là-dessus. Et c'est extrêmement, extrêmement grave. Et puis, vu qu'ils sont assez isolés, ils ne sont pas toujours, actifs dans certaines filières, certains types d'apprentissage, et ben, il ne va pas forcément y avoir non plus beaucoup de gens autour d'eux qui peuvent les soutenir lorsqu'ils vont être intimidés, lorsqu'ils vont être visés par certains problèmes. On va leur demander d'en dire certains papiers.
Charlotte, je suis désolée parce qu'on est en train de me faire signe que c'est terminé. Mais j'ai juste une dernière question et j'aurais voulu savoir quelles sont vos actions pour faire bouger les choses. Et c'est la dernière question, alors ça sera à la fin. Très rapidement, Maëlle et puis après Charlotte. Bon, Charlotte, vas-y.
Alors, pour faire bouger les choses, au niveau, à quel propos ? Parce que j'ai pas.
Au niveau des actions que vous allez mener, en fin de compte, pour faire bouger les choses.
Bah, nous, on a une très grosse part de plaidoyer, de toute façon. Hein. C'est-à-dire qu'on milite auprès de beaucoup d'institutionnels sur la situation, déjà, pour leur ouvrir les yeux sur la question, hein, parce que souvent, ils sont au courant, mais pas autant que nous, finalement, sur la vraie précarité étudiante. Donc ça passe par des actions coup de poing pour essayer de médiatiser un peu l'affaire, et ensuite effectivement par la construction de plaidoyer précis sur ce que nous on aimerait comme modèle de société et comment on le vend auprès des députés, donc des parlementaires et du gouvernement pour la session nationale. Et après on a une part de projet, donc on gère les pistes sociales et solidaires, on fait des distributions, on fait de l'accès aux droits, on essaye de rendre compte de ce qui existe comme aide, parce que comme on le disait en première partie, les étudiants sont pas forcément au courant, donc on essaie de les mettre au courant, c'est aussi notre travail, et on mène des projets, etc., pour essayer de rendre accessible finalement la vie étudiante aux étudiants, et c'est déjà une grosse part de notre travail.
D'accord, merci. Charlotte, très rapidement aussi.
Alors oui, bien sûr. Donc en fait, il y a sur plusieurs plans. Donc on a, par exemple, nous, on milite et on lutte pour avoir une école gratuite pour toutes et tous. On va essayer de se mobiliser quand des élèves vont être visés par des OQTF. On essaie au maximum de relayer les actions qui sont menées partout sur le territoire dans les différents lycées.
Alors moi, j'ai juste une question et on va être obligé de couper. Il va falloir vraiment que MNL rejoigne aussi la FAEP et que vous travaillez tous ensemble. Et là, je crois que ça se termine parce que la Luc, le technicien, me fait signe vraiment que c'est terminé. Voilà.
Eh bien, notre émission se termine. Je remercie chaleureusement Charlotte et Maëlle d'avoir participé à cette émission qui sera diffusée pendant le mois de mars le vendredi 10 à 19h, le lundi 13 à 16h30, le samedi 25 à 17h et le mercredi 29 à 2h du matin. Le thème du mois prochain sera « Comment améliorer l'apprentissage du français et des mathématiques en primaire ?» Merci Luc à la technique. Et chers auditeurs, si l'éducation des enfants et l'avenir des jeunes vous intéressent, N'hésitez pas à nous rejoindre et venez donner votre opinion à l'antenne. Contactez-nous par courriel sur le site de RVM à www.radio-6-valois-6-mulsien.fr. Au revoir à tous.
Merci, au revoir.
Ils sont marrants cette année. C'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué. Lequel sera incarcéré pour avoir trop dealé. Moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver.